Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. En marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le mercredi 12 août dernier, le ministre de la jeunesse a dévoilé le décret-loi en préparation fixant une formation militaire obligatoire d'un an des jeunes diplômés d'État. Selon Billy Kambalé, ministre de la jeunesse, cette formation vise à initier le jeune à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. Que pensez-vous de cette initiative? À l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également interagir ou échanger de manière citoyenne avec les autres compatriotes sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 12 600 personnes à avoir été touchées par ces sujets. 1500 parmi vous l'ont commenté et 652 l'ont partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos programmes. Polydor Basunga est à la mise en onde et Pierrot Elamégie à la réalisation et J.R. Lungembo, le Boum Angie est à la présentation et à la coordination de cette émission. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pour ou contre l'enrôlement ou encore la formation des jeunes obligatoires, de manière obligatoire, dans l'armée, vous êtes, en tout cas comme je l'ai dit, plus de 12 600 à avoir réagi par rapport à cette question en marge de la journée internationale. Un décret de loi, de proposition de loi sur cette question est sur la table du ministre de la Jeunesse. Alors Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution, pour ou contre cette formation des jeunes à l'armée?
J'ai des analyses par rapport à cette question Julien. D'abord, j'étais à dire que j'ai encouragé l'initiative du ministre qui a pensé que il serait mieux important que la jeunesse, juste après l'obtention du diplôme d'État, que les jeunes Congolais avant de commencer les études universitaires, de faire une formation militaire. Ça, c'est vraiment à encourager. Pour moi, à mon niveau, il y a des préalables avant d'y arriver ainsi. Parce que je pense bien que si du moins nos autorités avaient le souci de voir le Congo être un pays respectueux, un pays qui fait peur, il y a ce que nos autorités devaient d'abord commencer par faire, surtout dans le domaine militaire. Pourquoi je le dis? Moi, je pense que l'important, c'était d'abord de voir comment organiser l'armée qui est déjà là, c'est-à-dire les éléments que nous avons, pourquoi pas la police. Mais si vous essayez de voir les conditions de nos militaires aujourd'hui, parce que moi, je pense que si du moins le ministère réfléchit ainsi, c'est plus sur le plan sécuritaire. Du fait que souvent, je me souviens que dernièrement, on a débattu. Nous avons plus de 7 armées étrangères qui ont envahi notre territoire. Et on a compris qu'il y a encore un problème de sécurité. Mais pour moi, ce n'est pas là que le ministre de la Jeunesse devait commencer. C'est d'abord le gouvernement, dans sa globalité, il devait d'abord voir comment mettre les militaires dans des conditions favorables. En mettant les militaires dans des conditions favorables, cela devrait être une motivation à tout le monde, que ce soit aux enfants, que ce soit aux jeunes, de se dire, comme ça, tous les autres fiers. Quelqu'un peut avoir fait un domaine, soit il est licencié à l'histoire.
Amos, vous êtes à Bukavu, nous vous gardons encore en ligne. Le temps peut-être que vous suivez les ministres qui viennent de faire son entrée dans ces studios, les motivations de cette proposition, de cette initiative, et également les contextes dans lesquels il vient de proposer ce décret, le décret sur le projet de loi relatif à la formation des jeunes. Voilà, donc nous vous gardons encore en ligne, le temps d'accueillir les ministres qui viennent de faire son entrée. Billy Kambalé, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Nous rappelons que vous êtes ministre de la Jeunesse et vous avez fait cette proposition de loi. Alors, d'entrée des jeux, quelles sont les motivations de cette proposition?
Merci beaucoup. J'en profite d'abord pour saluer les auditeurs des radios Okapi, une radio très suivie à travers la République et dans le monde. je suis motivé par mes responsabilités. Je suis non seulement ministre de la jeunesse, mais aussi de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Lorsque nous faisons l'état des lieux de la citoyenneté dans notre pays, nous constatons purement et simplement que le citoyen congolais n'existe presque plus. Nous n'avons plus des valeurs, nous n'avons plus des talents, nous n'avons plus ce à quoi nous croyons en tant que citoyens de ce pays. L'âme de la République a complètement disparu à cause justement des mauvaises pratiques qui se sont érigées dans notre pays pendant des années. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut une thérapie des chocs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui pratiquement ne croient plus en rien, ne croient plus en l'existence même de notre pays. Vous verrez même certains dire Kongwangoto Kabulango Kaka, Munamutu, Asama Kamunae. C'est très grave. Voilà pourquoi moi j'ai dit que nous devons créer un service civique qui impose aux jeunes qui terminent l'université, qui terminent les humanités, qu'ils passent d'abord par un service civique qui va au-delà des enseignements sur le patriotisme, sur le respect du bien, des biens publics, sur les valeurs citoyennes. Il va falloir aussi qu'on y ajoute un service militaire pour imprimer la discipline pour nos jeunes avant d'entamer l'université, bien entendu. L'objectif pour moi, ce n'est pas de créer des militaires, pas du tout, mais il s'agit tout simplement non seulement d'élargir notre corps de réservistes. Vous savez que notre pays est en proie à des agressions en répétition. Non seulement cette loi permet que quand les gens entament l'université, ils ont déjà une certaine conception du vivre ensemble, de la République. Et donc, quand vous terminez l'université, vous savez que vous devez servir votre pays. Donc, ce sont là les motivations qui me poussent à proposer encore qu'il faut que je puisse faire comprendre aux auditeurs qu'il s'agit de la loi cadre qui régit le domaine de la jeunesse dans notre pays. Dans cette loi, c'est là que nous proposons ce service public, mais il y a autre chose au-delà du service
alors,
civique.
Alors, le temps peut-être de temps de débat aussi sur autre chose que vous avez proposé, mais la proposition notamment de cette formation obligatoire des jeunes après les humanités tient également compte du contexte politique et du contexte sécuritaire actuel.
Notre pays...
Au risque que ce soit un réservoir des seigneurs des guerres.
Mais c'est ça justement que j'ai dit, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de proposer. Les gens ne comprennent pas et ils sont limités juste à cette juxtaposition des groupes armés et des belligérants qui ont constitué notre armée. L'âme de notre armée aujourd'hui est déstructurée. Vous avez d'un côté les anciens de la DSP, vous avez de l'autre côté les anciens du régime de l'AFDEL, vous avez les différentes rébellions, et puis les miliciens des accords et des conciliabules qui se sont succédés, on a déversé dans notre armée tous ces tas, qui n'ont pas la même philosophie, qui n'ont pas la même âme, et c'est comme ça que vous trouvez que, dans un pays, on cite même des généraux comme co-auteurs ou responsables des massacres et des ventes d'armes et munitions de guerre. C'est ça, ce que nous voulons combattre. Ici, le contexte actuel, les gens, j'attends les gens dire « Ah voilà, il veut encore agrandir l'insécurité. » Mais moi, je vais vous donner un exemple. Les clubs de karaté, nous en trouvons partout dans nos quartiers. Mais est-ce que ce sont ces karatékas qui sont transformés en kuluna? Pas du tout, au contraire. Vous les retrouvez, ils sont disciplinés parce que et il y a une certaine philosophie qui leur a été imprimée. En plus de cela, moi je veux que nous puissions renverser la tendance. L'armée ne doit pas être considérée comme ce déversoir de tous les ratés de la société. L'armée, c'est un corps d'élite. L'armée, c'est là où d'ailleurs on retrouve les grandes inventions dans le monde. Internet est parti où? Dès l'armée américaine. Donc, nous devons changer le paradigme. L'armée ne doit plus être composée de tous ces mafieux, tous ces généraux et tous ces colonels, ainsi que des caporaux qui sont transformés en commerçants. Mais l'armée doit être une armée républicaine forte, où les gens ont une discipline.
Moi, l'objectif, et je le rappelle encore ici, l'objectif, c'est que mon domaine de l'initiation à la nouvelle citoyenneté trouve un contenu. Il ne suffit pas que le ministre s'appelle Billy Kambale pour que les choses changent en termes de mentalité. Même pour développer ce pays, on paye des versets des milliards. Mais si on n'a pas un nouveau type de Congolais, jamais ce pays n'ira de l'avant parce que nous ferons toujours du surplace. Voilà pourquoi je veux que ces services soient instaurés pour accentuer la discipline surtout, la discipline et la compréhension du vivre ensemble et la compréhension que nous sommes un État, nous sommes une nation, nous appartenons à une nation, nous avons des valeurs que nous défendons, nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés en tant que nation d'ici 2050, ce que nous voulons devenir, le rôle que notre pays est appelé à jouer dans le monde et en Afrique. Voilà, c'est sur ces bases-là que je voudrais qu'on construise le nouveau type de Congolais. Voilà. Et on ne peut y arriver qu'avec des formateurs qui sont là avec des tactiques pour formater le nouveau jeune Congolais qui a acquis des mauvaises habitudes au fil des années. Entrez seulement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir une tonne d'injures. On n'a plus rien à vendre à notre jeunesse en dehors des mauvaises habitudes. La corruption qui gangrène notre système politique, économique dans ce pays. Il faut changer ces mentalités-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il y a un déficit de discipline dans notre société et voilà. Une thérapie des chocs,
c'est ce passage-là. On va réécouter Amos qui nous avons gardé. Amos, vous avez quand même suivi à ce niveau les motivations de la proposition de cette loi.
J'ai suivi, et c'est là que j'étais d'ailleurs. J'ai commencé par dire que j'ai encouragé l'initiative. Mais moi, je pense qu'il y a des préalables. Et c'est là que je me suis toujours dit que nos autorités, apparemment, il arrive des fois qu'ils prennent des initiatives sans avoir analysé la situation sur le terrain. Pourquoi je le dis? Moi, je pense que si réellement notre gouvernement, comme je viens de suivre l'invité, était en train de réfléchir comment trouver des gens capables à servir dans l'armée, discipliné, ce n'est pas là qu'il devait commencer. Le gouvernement devait d'abord commencer par mettre les militaires qui existent dans de bonnes conditions. Et ça devait être une très bonne motivation à l'égard d'autres jeunes qui ont ce souci-là de servir le pays sous les drapeaux. Ce que vous avez dit par là, on a vécu le cas de Moïse Laurent Désiré Kabila. Les jeunes se battaient pour faire l'armée parce que d'abord ils ont compris qu'il y avait un président responsable qui a mis le militaire dans des conditions favorables. Ce sont les militaires qui achetaient même des souliers et des habits pour certains jeunes. Et c'était déjà une très grande motivation. Mais aujourd'hui, je parle de Bukavu, j'ai dit, il faut arriver au Kansaillon, voir comment nos militaires vivent dans des bâches, dans de très mauvaises conditions.
Voilà. Donc vous estimez que ça ne peut pas motiver les jeunes.
Pour que ça soit une motivation, JR.
Donc moi, sinon, ça, les jeunes comprendront tout de suite qu'il s'agit d'une punition.
Ministre, mais ce n'est pas par là qu'il devait commencer. Il fallait d'abord qu'ils mettent les militaires dans des conditions et cela devait être une motivation totale pour ceux-là qui aimeraient faire l'armée. Pourquoi je le dis? Sous notre siège, il y a des gens qui peuvent faire autre domaine. Il est licencié en histoire, en droit, dans n'importe quel domaine. Mais après, il se dit, étant donné que dans l'armée, c'est un métier comme tant d'autres, je veux aussi servir mon pays dans l'armée. Mais pas de cette manière-là, dire, on va faire une formation
formelle. Donc vous n'acceptez pas le caractère obligatoire.
Ceux qui sont,
merci beaucoup.
Ceux qui sont militaires,
merci.
Mais une vie précaire, j'ai.
Merci beaucoup, Amos. Alors, on va prendre le deuxième auditeur, John, qui est avec nous. John, vous êtes à Bouta.
Oui, je suis en ligne jeudi.
Voilà, John, vous avez la parole. Quel est votre avis?
Oui, merci Radio Kabi pour l'occasion que vous me donnez. Je salue les auditeurs. Alors, nous avons suivi la proposition faite par les ministres sur le recrutement des jeunes à l'âge de 18 ans pour une formation militaire. Nous saluons l'initiative. C'est une bonne chose car l'histoire de notre pays nous renseigne qu'à l'époque, le fait président Mobutu faisait ça avec les jeunes. D'ailleurs, je connais quelques personnes qui nous discutons avec eux, qui disent qu'ils étaient aussi recrutés pour faire partie de la.
Oui, Mobutu l'avait fait. Et c'était une façon de punir les étudiants de l'UNIKIN et les étudiants qui protestaient en son temps, oui, par deux ou trois fois, ça, il l'a fait.
Oui, oui, bien que ça, vous avez, vous, comme l'histoire nous renseigne, l'armée congolaise était respectée. Les gens ne blaguaient pas avec les Zaïre à l'époque, mais aujourd'hui, il y a la porosité dans nos frontières. Cela n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est de voir la proposition faite par les ministres.
Alors, êtes-vous pour ou contre?
Bon, moi, c'est difficile pour moi de dire oui ou non, pour ou contre. Je dirais que je suis pour que la RDC soit respectée sur le Conseil des Nations. Mais je suis contre au niveau de la prise en charge. Comme j'ai dit dans ma page Facebook, je suis à Kisangani présentement. Je suis en train de voir comment est-ce que les jeunes qu'on avait recrutés sont en train de souffrir aussi et au vide de tout le monde. Du matin au soir, ils sont en train de quémander, ils font porte à porte pour demander, chercher à quoi manger. Alors que tout près de chez nous, ici à Kisangani par exemple, au nord et au sud qui voyait en Ituri, il y a les haricots. On a des maïs. C'est comme si le gouvernement a recruté ces jeunes pour les faire souffrir. Vraiment, ils souffrent terriblement, monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, le ministre fait cette proposition. Moi, je voudrais qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'ils.
Voilà, on a un petit souci avec notre ami John. Alors, le temps de. Je crois que, monsieur le ministre, vous avez suivi Amos et John. Quelle est votre réaction?
Non, le problème de notre société, c'est que les gens vivent au présent. Ils ne voient jamais le futur. Un homme d'État, lui, voit le futur. Les gens voient les difficultés que connaît notre pays aujourd'hui en termes d'encadrement. Mais ils ne voient pas demain. Ça veut dire que c'est comme si, et c'est ce que je disais ici, nous avons perdu la foi en la République. Mmh. Toutes ces réactions, c'est en réalité les cris de détresse de ceux qui vivent au présent, qui ont perdu l'espoir dans le pays. Ça veut dire, ils concluent directement que même 50 ans après, la République démocratique du Congo sera incapable de se doter d'une armée forte, républicaine et dissuasive. Moi, je suis un homme d'État, je ne vois pas seulement le présent, je vois le futur. Et je vous dis, et je répète encore, notre société est déstructurée complètement. Le citoyen n'existe plus. Le citoyen qui aime son pays et qui est prêt à donner sa vie pour la République n'existe presque plus. Tout le monde, c'est maintenant le chacun pour soi et lié pour tous.
Est-ce que c'est une façon de punir la jeunesse aujourd'hui qui s'est livrée dans la perfection, dans une vie facile et puis bon, dans les actes délictueux? Et c'est une façon aujourd'hui que l'État choisit aujourd'hui pour punir la jeunesse?
Je ne dirais pas punir, mais redresser. Parce que la situation est tellement intenable qu'il faut une thérapie de choc. Nous devons aujourd'hui nous concerter. Il faut même des états généraux de la République. Nous devons nous poser la question d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. C'est ça même ce que nous sommes en train de proposer. Aujourd'hui, tous ceux qui nous critiquent par rapport à cette proposition de loi, vous verrez que la plupart ils disent « Mais déjà cette armée, on ne sait pas s'en occuper. Comment on veut encore d'autres ?» Mais moi j'ai dit c'est ça même, c'est que je décris. Vous avez perdu la foi en votre société, en votre communauté. Vous ne savez plus ce que signifie partager les valeurs communes. Vous ne savez plus. En fait, l'âme, ce que nous pouvons considérer comme l'existentiel même d'une nation, ça n'existait plus. Et donc, moi je propose une solution qui peut ramener tout le monde à comprendre que la République avant tout. Tout le monde doit se mettre en ordre de bataille. Encore que, ici, je voudrais rappeler, pourquoi doit-on considérer que l'armée, c'est seulement pour faire la guerre? L'armée, c'est pas seulement pour faire la guerre. L'armée, c'est aussi les cantonnages manuels. L'armée, c'est aussi
le génie civil.
L'armée, c'est aussi les champs. L'armée, c'est aussi... Et moi, j'ai initié même les brigades agricoles au niveau du ministère de la Jeunesse. Vous pensez que là-haut aussi, il y aura quoi? Au-delà du fait que nous encadrons les jeunes dans l'agriculture, nous leur enseignons les valeurs civiques. Moi, je suis en train d'étendre dans toutes les activités menées au niveau du ministère. Je me focalise d'abord sur les valeurs civiques qui doivent être transmises à nos jeunes. Il faut que les gens comprennent que
Et que quand quelqu'un, j'ai suivi un auditeur qui dit nos autorités ne vivent pas les réalités sur terrain. Mmh. Non, justement. Les propositions des lois que nous faisons, c'est justement la synthèse de notre vision de cette société dans laquelle d'ailleurs nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, JR, vous n'allez pas me contredire. Est-ce que le respect des OZD existe encore dans ce pays?
Il y a un auditeur qui m'a laissé entendre que, bon, pour lui, il propose que les ministres devaient plutôt commencer par les ligues des jeunes de chaque parti politique qui s'adonnent parfois à des actes de vandalisme, des actes qu'on décrit à longueur de journée. Pourquoi ne pas commencer par des ligues des jeunes au lieu d'imposer aux jeunes diplômés qui ont des ambitions d'aller plus loin dans les recherches, de ne pas perdre cette année. Parce qu'une année de formation, c'est une année de perdu.
Non, ce n'est pas une année de perdu. C'est là où je suis en train de dire que la contradiction entre moi et tout ce monde-là, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que signifie une république. Une république, c'est d'abord des valeurs. Je vais vous poser la question. Pourquoi, quand nous sommes devant les drapeaux, nous sommes obligés de nous incliner? Alors que c'est juste un petit linceul. Pourquoi nous nous inclinons? C'est parce que ce drapeau-là représente, c'est le symbole même de notre existence en tant que peuple. Pourquoi est-ce que chaque matin, quand le drapeau, on est en train de faire monter le drapeau à un certain endroit, on demande aux gens qui doivent s'arrêter pour respecter le drapeau? Pourquoi est-ce que le chef de l'État lui-même, lorsqu'il est en train de faire le passage des troupes, pourquoi, quand il arrive devant le drapeau, il doit s'incliner? Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer à n'importe qui. C'est ça même l'existence même de la nation. En sciences politiques, on nous parlait du Léviathan. C'est-à-dire un homme aussi grand qu'on ne sait même pas voir la fin. C'est ça, l'État. Et c'est ce que nous voulons enseigner. Il faut que les gens comprennent qu'un ministre, ce n'est pas un coopérant. Un ministre, c'est pas un vagabond. Un ministre, c'est l'élite. Il doit réfléchir sur comment construire son environnement sur base des lois, la réglementation. C'est ça notre
travail. Mais dans la faisabilité, c'est ça la question maintenant.
La faisabilité, c'est la volonté politique. Lorsque le chef de l'État initie ici la gratuité de l'enseignement, que n'a-t-on pas dit? Que c'est pas faisable, c'est impossible, ainsi de suite. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de réussir les paris? Il y a des difficultés.
Certes,
mais
on avance.
On avance. Mmh. Même pour ces finalistes-là qui terminent, vous croyez que c'est vraiment impossible de faire des cantonnements avec même des hangars, des bâches, ainsi de suite? Mais justement...
Avec quel budget?
C'est
avec quel budget?
Savez-vous que la première université... au Moyen-Âge, lors des débuts des universités, c'était sous les manguiers, sous les arbres. Les Socrates, les Thalès, c'est sous les arbres qu'ils ont enseigné.
Mais après, ça a changé.
Mais
quel est le budget que nous avons pour faire face à cela?
Je t'ai dit, c'est un problème de volonté politique. Le budget, on peut en avoir. C'est simplement une question de volonté. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me poser beaucoup de questions sur le budget. Moi, je donne juste le principe. Nous l'adoptons et ensemble, nous travaillons sur comment nous allons concrétiser.
Voilà. Alors, on va écouter Jérémy qui est à Calémy et l'honorable Daniel et Christian de Kinshasa. Gervais, vous êtes à Calémy. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jir, et bonjour à l'invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi qui sont en train de jouer en ce moment.
Pour ou contre cette proposition?
Oui, en tout cas, je suis contre cette proposition dans la mesure où actuellement, nous savons même... Dans son préambule, la Charte africaine de la jeunesse stipule que la jeunesse est le moteur du développement du continent africain. Et aussi à ce titre, il y a des préalables que cette charte, celle qui est entrée en vigueur en Banjul en 2009, nous avait donné quelques préalables, comment chercher à créer des champs d'application et créer aussi des conditions socio-économiques des jeunes et la protection des droits fondamentaux. Maintenant, relativement à la proposition du ministre, je remets catégoriquement en cause. L'armée, c'est pas un service obligatoire, mais c'est un service volontaire. Dire que non, tous ces jeunes-là seront obligatoirement conduits à faire l'armée avant de faire l'université, c'est une aberration très grave. Au lieu de chercher des emplois aux jeunes, des emplois qui seront rémunérateurs. Aujourd'hui, nous connaissons un peu de pertes en vies humaines dans la Méditerranée, tout ça. faute au manque d'encadrement un peu harmonieux de jeunes, mais exposer les jeunes à faire l'armée. Vous savez, les conditions qui sont de l'autre côté, il y a des conditions requises. Quelqu'un ne peut pas être forcé à aller faire l'armée parce qu'il compte faire peut-être l'université ou quoi. Est-ce que premièrement, ou soit consciencieusement, le ministre sur le plateau prépare lui-même consciencieusement ou soit volontairement ses enfants à faire un jour l'armée, ou soit ses enfants avaient déjà tous terminé les études ou comment? Aujourd'hui, le Congo est en train... Allô?
Oui, allez-y, Gervais.
Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un peu une situation désastreuse. Les mêmes politiciens là sont en train d'instrumentaliser les jeunes au profit de leurs intérêts égoïstes, après avoir donc passé dans des moments difficiles pour gagner des postes. Mais aujourd'hui, combien de jeunes qui sont représentés dans des gouvernements, que ce soit au niveau national et provincial, ce sont que des vieux loups qu'on retrouve. Mais s'il faut utiliser les jeunes pour des fins, ou soit des fins politiques, il faut les prendre, les mettre en cours de route et aussi les souhaiter.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Gervais, d'avoir exprimé votre inquiétude. Alors, honorable Daniel, vous êtes avec nous? Honorable Daniel, vous êtes avec nous? Honorable Daniel. Voilà, on parle plutôt Christian Politassi qui est à Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour, J.S.
Christian, êtes-vous pour ou contre cette proposition?
Nous sommes pour cette proposition, mais cependant nous allons donner quelques propositions. De lire ou d'entendre ce genre de propositions, dans ce sens qui est pour moi, je les considère comme étant une solide stratégie qui va créer automatiquement dans les chefs de la jeunesse un triple avantage, notamment la conscience nationale, la liberté, en fait l'indépendance, ainsi que la responsabilité de servir l'État. Mais seulement, il faudrait encore ajouter à cela d'autres formations. Il ne faudrait pas seulement des militaires, simples, mais qu'il y ait une certaine valeur ajoutée dans ces...
Oui, Christian, si vous voulez, quand vous proposez la diversité des formations, il y a même un auditeur qui a écrit en soulignant la formation qui a été donnée à l'époque au niveau de l'info. Ça a attiré pas mal de jeunes, parce qu'ils ne sortaient de là pas seulement un militaire, mais aussi un sociologue.
Mais évidemment, Gilles Lungembo, admettons qu'après cette formation, ou à l'intérêt des autres formations, on arrive à former les maçons, les électriciens, les mécaniciens, ainsi que les plombiers. Vous voyez que tout celui qui est là, déjà cette formation va résoudre.
Mais déjà, il y a le génie civil qui existe, et pourquoi ne pas orienter directement ces jeunes-là au niveau des génies civils, militaires? Le génie militaire.
Gilles Lungembo, en vertu du principe, ce qui n'est pas interdit et permis, je crois qu'on peut le faire. Et donc, cela va résoudre la question que l'on pose aux jeunes, la question de l'expérience professionnelle, vous voyez. Mais si l'on ne donne pas cette valeur ajoutée à cette formation, on va former un groupe de gens qui seront en fait une gangrène contre la société congolaise et qui demain prendront encore des armes contre ces peuples. Donc, au-delà de ce que nous allons donner comme matière à ces jeunes, il faudrait également qu'il y ait quelques mesures d'encadrement. Disons que ces jeunes, c'est vrai, ils seront capables eux-mêmes de créer leurs propres emplois, mais qu'il y ait également des emplois. Disons que si ces jeunes ne créent pas, ils peuvent facilement être chez l'État et gagner quelque chose.
Même s'ils ne continuent pas dans l'armée, ils peuvent se réinsérer autrement, se réorienter autrement. Merci beaucoup, Christian. Honorable Daniel Mbaou, je crois que vous êtes en ligne. La ligne s'est améliorée.
D'accord, je suis parfait.
Voilà, vous êtes l'un des de ceux-là qui ont proposé également cette voie de pouvoir amener les jeunes dans la formation militaire. Est-ce qu'on peut garder les caractères obligatoires ou bien être un peu souple, proposer de manière volontaire un service militaire aux jeunes?
D'accord, merci d'entrer. J'aimerais qu'on puisse élaguer tout amalgame sur la problématique. Il n'y a pas deux personnes qui proposent. Je suis le seul qui ait proposé un texte qui porte l'institution d'un service militaire obligatoire conformément à l'article 63. Je suis venu remonter au créneau pour en parler sur plusieurs plateaux de télévision. Je peux considérer que l'intervention du ministre Kambal et lors de la journée internationale de la jeunesse était une coïncidence heureuse. Encore que cette compétence-là, elle est partagée si l'initiative devait sortir venir du gouvernement. Donc, elle devait d'abord commencer par le ministre ayant la défense dans ses attributions, et puis le ministre de la Jeunesse allait, en fin de compte, être associé pour des avis d'observation. Et la conciliation, faut qu'on clarifie les choses, parce qu'apparemment, je l'ai suivi, on amalgame les choses. Alors, le ministre Kamba, dans son discours, parce que jusque-là, c'est le un discours. Moi, j'ai déposé une proposition.
Oui, oui, honorable, nous sommes sur le même... je crois sur une même table. C'est-à-dire, vous êtes d'avis qu'il faut une formation. Oui, il faut une formation. Non, nous sommes sur pour ou contre cette formation des jeunes. Vous êtes pour cette formation, n'est-ce pas?
Parce que j'en suis.
Ce n'est pas un problème. Vous êtes pour cette. Alors, quelles sont les motivations? Répondez-vous, quelles sont les motivations? Ce qui vous pousse, vous personnellement, à faire cette proposition?
Voilà. Les motivations sont les gens. Mais je vais circonscrire mon propos en ceci. Que depuis notre création en 1885, la RDC est la résultante d'une artificialité. Mmh. Ça veut dire que la RDC est le résultat de la volonté de plusieurs puissances. Nous ne sommes pas l'invention de nous-mêmes. Nous ne sommes pas les produits de la certitude. Mais nous sommes des produits du hasard et de la volonté de tiers. C'est vrai que le 26 février 1985, nous avons été le seul pays africain à avoir apposé notre signature dans l'acte de Merlin. Mais nous sommes aussi la conséquence d'un contrat international. Mais en même temps, d'une escroquerie juridique. Je pense que on en dira un peu plus long dans un cadre de la
mort. Oui, honorable, soyez un peu concret, parce que la population nous suit. Quelles sont les motivations en deux ou trois points? Qu'est-ce qui vous a motivé à proposer cela? Parce que vous avez vu que les jeunes sont délaissés, parce que vous avez vu que les jeunes sont indisciplinés, parce que vous avez vu qu'il y a un déficit de l'éducation civique, ou peut-être vous, dans le contexte actuel, vous voulez sauver ce territoire qui est en proie de l'insécurité. En proie à l'insécurité, bon, pardon.
D'accord. Je pense que si je me fais grâce de tout ce que je... Parce qu'il fallait poser le postulat. Donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension culturelle et puis la dimension sécuritaire. En termes de dimension sécuritaire, vous savez, la RDC est considérée comme le ventre mou de l'Afrique. Mmh. La RDC est considérée comme la bonne bouche, n'est-ce pas, d'insécurité de la partie est de l'Afrique. Et nous sommes constamment bâillonnés par des rébellions, par des crises politiques, institutionnelles et même militaires répétées, par des incursions militaires étrangères, ce qui fait que, considérant le fait que l'État est un cadre spatial qu'il faut organiser et structurer, nous avons pensé qu'il n'y a pas mieux qu'un service militaire obligatoire qui est, à mon avis...
Donc obligatoire et non volontaire.
Qui va interpeller toutes les puissances qui sont tout autour de la RDC et qui va réaffirmer la politique de la RDC comme une force, comme une puissance, comme une grande nation au cœur de l'Afrique. Dans cette dimension culturelle, et il faut construire une citoyenneté congolaise qui n'existe pas depuis 60 ans aujourd'hui. Nous sommes caractérisés par une culture de prédation, par une culture de corruption. Et donc il faut recréer l'homme congolais. On peut recréer l'homme congolais comme l'ont fait beaucoup d'États, l'Allemagne, à un moment donné les États-Unis d'Amérique, l'Israël, la Tunisie, à travers ce service militaire obligatoire. Et ça va nous permettre à nous projeter dans l'avenir, n'est-ce pas? Et à créer une sorte d'uniformité, non seulement dans la culture, mais également dans la vie congolaise. Vous remarquez qu'après trois cycles électoraux, la RDC, notre pays, est aujourd'hui victime d'une division interne. Nous sommes flagellés, désagrégés par les tribalismes.
Voilà.
Et donc,
honorable,
on va créer une identité.
Voilà, honorable.
Voilà.
Honorable Daniel, merci beaucoup, hein, parce que là, nous avons compris vos motivations. Et nous reviendrons peut-être un peu plus large dans d'autres émissions plus élaborées pour en savoir un peu plus. Merci et à très bientôt. Voilà, on revient à vous, monsieur le ministre, c'est vrai. Il y a beaucoup d'appréhension autour de cette question, parce que la question de la faisabilité, vous l'avez dit, ça rappelle aussi la volonté politique. La volonté politique, sans la volonté politique. Mais la volonté politique aujourd'hui, ça semble être un peu un mot creux, un mot vide de sens. Parce que tant on la réclame, on ne sait pas qui est censé imprimer cette volonté politique.
Non, d'abord, je voudrais préciser deux ou trois choses. C'est que
Je suis d'accord, totalement d'accord avec ce qu'est dit l'honorable Daniel Mbaou, que je crois que dans les tout prochains jours, on va se rencontrer pour harmoniser à partir du moment où nous partageons les mêmes idées. Je voudrais préciser, quant à celui qui doit être responsable, ça c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser le principe et qu'on en discute. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a très longtemps que nous avons fait des débats d'idées dans ce pays. Nous sommes là dans des invectives, des injures, des marches. Ça a été ça, l'activisme politique. Mais aujourd'hui, au moins, nous pouvons parler de la République, de ce que nous voulons pour la République. Et je suis très heureux d'avoir lancé le débat et que ça prenne cette ampleur pour que tout le monde se sente concerné. En ce qui concerne ces services militaires obligatoires, il faut que les gens me comprennent bien et je le répète. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait de l'amalgame. Je propose ce service. C'est pour créer un nouveau type de citoyens congolais. J'ai dit à des gens que nous ne pouvons plus récupérer. C'est impossible. Les mentalités se sont ancrées en eux pendant des années et des années. Nous les avons presque perdus. Mais est-ce pour autant que nous devons croiser les bras? J'ai dit non. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Et parmi les thérapies des chocs que nous pouvons imprimer à notre société, c'est entre autres ce service militaire obligatoire. Les gens ont dit, ah voilà, il veut envoyer nos enfants dans l'armée. Non. Ce service militaire obligatoire est juste un moment d'éducation civique intense où on rappelle aux citoyens qui a terminé ses humanités que tuer un bien de la République, tous tels que nous vivons sur cette terre, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on nous donne des passeports. Les passeports sont la propriété privée de l'État congolais. Mais pourquoi on nous la donne? On nous donne ces passeports. Vous voulez dire les passeports? Parce que on nous donne une identité. L'État nous définit parce que nous sommes ses propriétés. Ce service militaire, c'est pour rappeler à ces jeunes citoyens que tu es là au service de la République. Après la formation militaire, il peut continuer. Ceux qui vont décider de faire l'armée, ils sont libres.
Il aura acquis le civisme, il aura acquis la citoyenneté.
La citoyenneté.
Mais entre-temps, les dirigeants, une certaine génération... Oui. Qui n'a pas bénéficié de cela. Mais ça sera toujours anachronique et ça sera incompatible. Et d'ici 2030, pensez-vous que nous allons vivre en paix ou ça sera toujours en contradiction entre une nouvelle génération avec une nouvelle citoyenneté et l'ancienne génération que nous représentons, nous, avec une ancienne citoyenneté?
Supposons que nous avons 100 000, 200 000 jeunes qui terminent les humanités. Ils passent par cette formation.
Tous seront versés là.
En plus,
filles et garçons.
En plus, je vais vous donner une autre révélation. Le finaliste de Goma, il ne fait pas sa formation à Goma. Il fait sa formation à Boma. Le finaliste de Kinshasa ne fait pas sa formation à Kinshasa. Il fait sa formation à Butembo. Pour le brassage culturel. Pour que nous puissions nous côtoyer.
Et renforcer la cohésion
nationale. Renforcer notre vivre ensemble. C'est ça que nous voulons imprimer. Et donc, ici, je voudrais qu'il n'y ait pas d'amalgame. La formation militaire obligatoire que nous proposons, ce n'est pas un recrutement des gens dans l'armée. Pas du tout. Est-ce que les gens peuvent comprendre? Est-ce que les auditeurs peuvent nous comprendre une fois pour toutes? Nous ne sommes pas en train d'appeler tous les jeunes de la RDC à devenir des militaires. Non. Nous proposons une formation. La formation militaire est la formation par excellence pour former le citoyen sur le respect des biens publics, sur le fait qu'un citoyen est prêt à mourir pour défendre la communauté, sur le fait que un militaire, c'est d'abord la discipline passée par Camp Kokolo. Vous verrez, on écrit là devant, la discipline est la mère des armées. C'est cette mère nourricière des armées qu'on veut qu'elle puisse allaiter notre jeunesse pour qu'elle comprenne
Et là, vous avez dit, mais est-ce que tous ces vieux qui ont acquis des mentalités, la vieille génération
et la nouvelle génération,
est-ce qu'il n'y a pas dichotomie? Non, la nouvelle génération va imprimer sa marque et les mauvaises habitudes vont disparaître. 200 000 jeunes bien formés, déversés dans la société, c'est une vague qui va amener des nouvelles mentalités et qui va bouger les lignes. Et chaque année, si tout le monde se met dans cet exercice, cette vague de jeunesse, entre 2020 et 2030, nous aurons déjà acquis des millions de gens, des millions de jeunes gens qui ont une certaine idée de la République et ils vont l'imprimer dans leur vécu quotidien.
Voilà, on va poursuivre. Il y a beaucoup de gens, en tout cas plus de 11, 12 000, pratiquement 600 qui ont été touchés par ces sujets lorsque nous l'avions posté sur notre page Facebook. Et lorsqu'ils savaient, d'ailleurs, les auditeurs, qu'on allait recevoir le ministre Billy Kambalé, ils ont émis le vœu d'intervenir. En tout cas, on ne saura pas vous prendre tout le monde, on ne saura pas proposer tout le monde sur les ondes de Radio Capi, au moins une vingtaine, une dizaine. Et je vois Achille qui nous a appelé. Achille, vous êtes avec nous?
Oui, allô, bonjour, Radio Capi.
Oui, Achille, quelle est votre contribution dans cette émission? Êtes-vous pour ou contre cette proposition?
Nous sommes totalement contre et nous n'appuyons pas cette façon du ministre de voir les choses. D'abord, c'est l'objectif et la discipline, l'éducation civique et le respect des biens de l'État. À ce jour, les FRDC ne sont même pas les modèles à suivre compte tenu de l'offre future à la fois à leur charge. Et pourtant,
mais oui, Achille, quand vous dites que ce n'est pas le modèle, devons-nous rester dans cet état des choses, ou bien il faut repenser notre République?
Bon, pour le respect de la République, vous dites, je ne comprends pas.
J'ai dit, faudrait-il rester dans cet état des choses, ou bien nous devons tous repenser notre République?
Bon, je ne vous capte pas très bien, je vais avancer,
voilà.
Vous pourrez encore peut-être arrêter plus vite. Donc moi, je crois que pour atteindre ces mêmes objectifs, plusieurs autres stratégies s'offrent. D'abord, on parle de la discipline, l'éducation civique et le respect du bien de l'État. Mais là-bas, le programme scolaire en RDC prévoit de telles notions. Est-ce que le ministre a reproché au programme scolaire que nous avons à ce jour? Nous croyons que pour y arriver, il faudrait plutôt améliorer ce système scolaire et surtout renforcer le système judiciaire qui doit toujours punir les contrevenants en cas de forfaiture. Et aussi, nous craignons le pire pour la préformation. Est-ce que ces jeunes, déjà avec une formation militaire, ne vont pas s'adonner à un banditisme grandissant ou bien servir dans des milices? Donc là, déjà, la République aura des milices professionnelles. Moi, je crois que s'il faut attirer les jeunes vers le FRDC, il faudra plutôt améliorer les conditions socio-professionnelles des FRDC et des PNC pour attirer volontairement les jeunes à s'inscrire.
Merci.
Après ça aussi, parce que nous parlons de l'éducation, il faut aussi dire que cette formation, la durée, va venir aussi préjudicier en quelque sorte la formation universitaire. La durée de la formation universitaire, qui de plus pense aujourd'hui qu'elle est déjà très longue et que la République devrait même déjà changer à intégrer le système LMD pour raccourcir les temps de formation universitaire. Mais le ministre pense encore à une rallonge qui va dépendre de la durée de la formation militaire obligatoire.
Merci beaucoup, Achille. Alors, Ali, vous êtes à Kalemi. Ali Mouchaba, bonjour. Ali, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Ali. Le temps que la ligne s'améliore, nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'en marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le mercredi 12 août dernier, le ministre de la jeunesse a dévoilé le décret-loi en préparation fixant une formation militaire obligatoire d'un an des jeunes diplômés d'État. Selon Billy Kambalé, ministre de la jeunesse que nous recevons d'ailleurs dans ce studio, cette formation vise à initier les jeunes à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Vous êtes nombreux à avoir soutenu les projets et d'autres par contre ont émis quelques inquiétudes, notamment sur cette question de l'insécurité dans l'est de la RDC qui pourrait être aussi un réservoir en fait des seigneurs de guerre si jamais c'est mal encadré. Donc là, nous revenons encore sur cette question. Il y a aussi des aspects politiques qu'il faut d'abord gérer dans cette question pour que finalement les projets soient portés par tous. que tout le monde s'approprie de ces projets. Sinon, s'il y a encore des camps politiques, ça risque d'être une épine sur les pieds.
Bien entendu, et c'est le travail auquel je m'attelle. Pour moi, il s'agissait juste d'une proposition de loi dans le cadre de mes attributions et tout. Mais l'intérêt que porte ce sujet, j'ai compris les implications. Et donc, le travail politique, je suis en train de le faire avec tout. J'ai parlé de Daniel Mbaou. Je vais l'appeler, on va se voir à mon bureau pour en discuter et avoir une identité de vue commune. Et je vais voir le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, pour qu'ensemble nous puissions définir non seulement la stratégie, mais aussi tout ce que nous allons proposer, que ça soit concerté. Il y a aussi les différentes composantes de notre société, notamment la société civile, les partis politiques, ainsi de suite. Il faudrait que l'on crée un large consensus autour de cette question avant de la porter au niveau non seulement du gouvernement.
Vous avez parlé tout à l'heure, en début d'ailleurs de l'émission, parce qu'on va conclure bientôt. Il y a tout ça entre dans les cadres de la loi cadre.
La loi cadre.
Il y a beaucoup de choses, notamment.
Il y a beaucoup de gestes, notamment le fait que nous devons limiter l'année, l'âge par rapport à la jeunesse. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a une amalgame. Vraiment, même un quinquagénaire qui s'est dit, je suis encore jeune.
C'est un état d'esprit.
Non, c'est aberrant. La jeunesse, c'est par rapport à l'âge. Et donc, pour nous, la jeunesse, c'est entre 15 et 35
ans. Donc, on se met d'abord d'accord sur l'âge.
Sur l'âge.
Oui, voilà, sur l'âge.
La jeunesse. Mm. Deuxièmement, sur les activités de la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi au juste? On a limité la jeunesse dans le sport. Moi, je suis contre, et d'ailleurs, je n'en parle même pas. Vous suivez mes discours. Je parle même pas du sport. Parce que là, ce sont les compétences de mon collègue des sports, mon ami Amos Mbaou. Donc, la jeunesse, c'est autre chose que ça. La jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. La jeunesse,
C'est le fer d'une nation, c'est l'espoir de l'âme.
C'est l'âme d'une nation. Nous devons définir tout ça par rapport à la loi. Ce que doit faire la jeunesse. C'est qu'est la jeunesse. Ce que l'on attend de la jeunesse. C'est cette loi que je suis en train de vouloir proposer. Nous l'avons finalisée au niveau du ministère. Je comprends mon ami Daniel. Peut-être il avait fait sa proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je n'en connais pas le contenu. Je vois que lui s'est limité simplement au service militaire.
Mais vous avez entendu ça sous d'autres aspects.
Il s'agit d'une loi, de la loi sur la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est au-delà de ça, c'est le domaine de la citoyenneté. Le ministère ici, d'abord, ce que je veux que les gens sachent, c'est que je suis arrivé, le ministère de la jeunesse était tout le temps confondu au ministère des sports. Donc, quand j'arrive, il faut d'abord donner un contenu à ce ministère. Il faut lui donner une vision. Il faut lui doter d'un programme. Il y a déjà tout un tas, un arsenal juridique qui est en cours d'élaboration pour donner le contenu finalement à ce ministère. Pour que ça ne soit plus considéré comme ce petit ministère que dans la tête des gens, ça veut dire... Moi, les jours où je suis nommé, on a dit, bon, bah, vie, bah, c'est périsso, kaka, bah, tu moi, bon, mon habit, non, attendez. Moi, ils m'ont fait le plus grand honneur de servir la République. Et au niveau du ministère qui est censé encadrer 65 à 70%
parce que c'est de la population stratégique,
d'un des lances
des nations,
un ministère très stratégique.
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les combats politiques de chaque regroupement politique, tout le monde s'appuie sur les ligues des jeunes.
Exactement.
C'est comme si on les utilise comme marche-pied, finalement, quand ils atteignent leurs objectifs, on les oublie.
C'est ce que je dis. Nous devons changer le paradigme. Aujourd'hui, la jeunesse doit être au centre de l'action de la gouvernance, mais aussi elle doit être acteur. Nous devons aujourd'hui recréer cet espace, ce département qui est la jeunesse. Voilà pourquoi je suis en train de faire cet arsenal juridique pour encadrer tout cela. Et voilà pourquoi j'ai fait la proposition des lois, le projet de loi dans ce sens-là.
Donc, quand vous avez proposé depuis la journée internationale de la jeunesse, je ne sais pas si cette question, ça va vous mettre mal à l'aise, les uns disent que parce que vous êtes de l'UNC, vous préparez des milices.
Non.
Je m'excuse d'ailleurs de vous avoir posé cette question.
Non. Écoutez, moi, j'ai mené mon combat en dehors de tout ce qu'il y a comme bruit des bottes, notre combat, c'est un combat pacifique. Nous n'avons jamais eu dans notre agenda des luttes armées, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, l'objectif, c'est encore une fois la citoyenneté. Je vous ai dit, mon rôle, c'est de donner le contenu à ce ministère. Le concept d'initiation à la nouvelle citoyenneté jusqu'à ces jours, je voudrais rendre hommage à ceux qui m'ont précédé. D'abord, c'était le ministère de l'EPST. C'est passé au ministère de la communication et médias.
Avant, c'était avec Kinké Moulumba, de la Pétentique et Nouvelle Citoyenneté.
Voilà.
Après, c'est l'EPST avec Makaire Mongo.
Après, c'est Mende avec la communication pour venir chiter au ministère.
C'est comme vous dire, l'État ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. C'est une nouvelle citoyenneté.
Non, ça voudrait tout simplement dire que c'est une quête.
C'est une question transversale.
Il ne faut pas condamner l'État. L'État est dans cette quête. Moi, à mon arrivée, je me dis, il faut donner non seulement du contenu à ce concept, mais aussi nous devons l'appliquer. Les théories, c'est bon, mais c'est la pratique aujourd'hui qui doit nous intéresser. Mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord quand même que quand vous faites 6 mois de formation militaire accrue et de formation au métier et aux valeurs citoyennes, tout le monde est au moins d'accord qu'en 6 mois, cet homme-là, quand il sort de là, il est totalement transformé.
Est-ce que vous êtes d'accord que les pays qui avaient pris l'initiative d'abord, dans son temps, je prends les États-Unis, la France, ils ont abandonné ce caractère obligatoire. Ils laissent de manière un peu volontaire, mais en donnant des avantages, en expliquant davantage aux jeunes les avantages qu'ils encourent dès qu'ils optent pour une formation militaire après leurs humanités.
Mais ce que vous ignorez, c'est que ces pays, au mis du temps, ils ont construit d'abord leur nation. Mais aujourd'hui, je te dis, nous sommes dans la quête de la construction de notre nation. Et donc, nous, il nous faut d'abord commencer par là. Nous allons faire l'évaluation après des années, après des siècles peut-être, pour dire, est-ce que nous avons réussi à recréer cette nation? Ce que nous sommes en train de faire pour nous, c'est déléguer aux générations futures un environnement qui leur permettra de s'épanouir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Lors de mon discours, j'ai dit, nous jeunes d'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, que diront nos enfants? Saurons-nous répondre à la question, papa, maman, vous étiez là, qu'avez-vous fait? C'est à cette question que moi je suis en train de chercher à répondre dans l'avenir.
J'aime bien ce grand philosophe qui dit, ne vous pose pas la question, ce que la nation fait de vous, ou a fait pour vous, mais posez-vous plutôt la question, ce que vous avez fait
de
la nation. Alors on va écouter, par votre permission, ces derniers auditeurs, et puis on reviendra pour la conclusion. Alors Fariel, vous êtes avec nous?
Oui, j'étais avec vous, M. Sir.
Alors juste en une phrase, quelle est votre contribution?
Oui, M. Sir, moi particulièrement, je suis en train de soutenir le gouvernement avec ce projet de loi, parce que ça ne vient pas du hasard. Je félicite le ministre Billy Kambale par rapport à ce projet de loi. Parce que si aujourd'hui le gouvernement veut changer la classe politique congolaise en passant par la jeunesse, c'est parce que les vieux ont failli à leur mission. Comment expliquer, messieurs, aujourd'hui, personne ne respecte les biens publics de l'État, personne n'a pas la discipline pour aider ces pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous soutenons ce projet de loi pour que toute la jeunesse congolaise puisse passer à la formation militaire, à cette fin de servir cet État congolais. Parce que lorsqu'on est sous les drapeaux congolais, c'est pour rendre un bon service à la nation. Mais deux questions seulement que je dois poser au ministre.
Rapidement.
Oui,
très rapidement.
Oui, quand la jeunesse va faire cette formation dans des centres, est-ce que l'État congolais a des centres sur l'ensemble du territoire national pour former cette jeunesse? Et après cette formation, il y aura ceux qui vont solliciter pour faire l'armée et ceux qui vont opter la vie civile. Mais chaque année, l'armée pourra toujours augmenter le nombre de militaires. Qu'est-ce que l'État congolais pourra faire avec un bon nombre de militaires?
Merci beaucoup. Ce sont là deux questions directes. Et c'est par là que nous allons donc terminer cette émission. À vous, monsieur le ministre.
Non, j'ai dit tout s'est construit. Notre compatriote paix s'est tranquillisée. Si nous voulons des centres de formation, nous pouvons en construire autant. C'est une question de volonté politique. Deuxièmement, notre armée pourra compter combien de militaires? Savez-vous qu'aujourd'hui, le Congo, c'est 2 345 700 km². Nous avons les sous-effectifs. Nous devons rêver grand pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons doter notre armée, bien évidemment, des moyens suffisants pour la rendre compétitive, professionnelle et faire face à toute menace. Mais l'armée, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement pour faire la guerre, c'est aussi pour le développement. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'économie des énergies pour faire face aux défis du développement et surtout rattraper le retard que nous avons accumulé pendant des années pour le bonheur du peuple congolais.
Billy Kambalé, ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, merci de nous avoir honoré de votre présence.
C'est moi qui vous remercie, JR. Encore une fois, toutes mes excuses pour les retards. Beaucoup de charges, malheureusement. Nous sommes obligés.
Merci, l'essentiel pour nous. On a passé ces 57 minutes interactives ensemble avec les auditeurs et aussi d'autres compatriotes qui nous ont rejoints à l'étranger. Malheureusement, on n'a pas pu faire passer tous les messages sur les ondes de Radio Capi. C'était qu'une partie remise. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Polydor Basunga et Pierrot et Lameji. JR Lungembo Luabung Anji étaient à la présentation et à la coordination de cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.